Il est 18h30, donc je vous propose de vous installer dans cette grande salle et je vais procéder à l'appel. Alors Pierre, oui, Balestra Claude, mais ah oui, il est là, oui, alors, il faut parler un peu fort parce que je n'entends pas depuis là. Balestra Johan, ok. Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Quendo Lucien, Compère Béatrice, Coco Nadège, Crossi Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbeau Alex, Granet Thierry, Ladune Clément, Laurentier Noël, Lequief Didier, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel, Pichon Joël, je vous cherche, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, Razoa Fenozoa Esther, Roi Didier, Séba Julia, Simono Christelle, Tarno Nathalie, Tricard Stéphanie, Vacheux Christophe. Dans l'ordre du tableau, secrétaire de séance, notre collègue Hervé Baudet. Par rapport au compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2020, est-ce qu'il y avait des remarques particulières par rapport au compte-rendu ? Johan, oui.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Simplement par rapport aux procès-verbaux, comme indiqué, vous le savez, on souhaiterait simplement que soient mentionnées les personnes qui prennent la parole dans notre procès-verbal, afin que les personnes qui le souhaitent puissent ensuite se référer à l'enregistrement qui a valeur de compte-rendu. Et si on pouvait avoir une technologie qui nous permette de chapitrer les enregistrements, ça fluidifierait la lecture. Donc voilà, ce seraient des outils importants selon nous.
D'accord, mais là on parlait des comptes rendus. Mais bon, on a bien noté ta remarque et on a répondu d'ailleurs ce matin. Vas-y.
La différence entre le procès verbal et le compte rendu, c'est le compte rendu ne fait pas état des débats, ça fait état que des décisions. Le procès verbal qui est enregistré, et là ça va marcher ce soir, là, retrace l'ensemble des débats. Mais un compte rendu n'est pas là pour retracer les débats. C'est vraiment que les décisions qui sont prises. C'est la différence, c'est la réglementation. Enfin, c'est un texte de loi qui le prévoit. La différence entre procès verbal et compte rendu. D'accord ?
Et donc, normalement, comme on enregistre et que je donne la parole, on devrait savoir qui est-ce qui prend la parole à chaque fois lorsque vous écoutez l'enregistrement. Voilà. Donc, ça permet de se retrouver assez facilement. C'est pour cette raison que on souhaite que chacun demande la parole, on la donne, et quand je donne la parole, je donnerai le nom. Comme ça, ça permettra de s'y retrouver. Voilà, donc par rapport à ce compte-rendu, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? On peut considérer qu'il est validé en l'état ? Je vous en remercie. Nous allons passer donc au premier point de l'ordre du jour qui concerne le règlement intérieur. J'ai dit que le secrétaire de séance était Hervé Baudet, oui. Donc qui concerne le règlement intérieur de notre conseil municipal. Donc je ne vais pas le reprendre dans son intégralité puisqu'il a déjà été vu en première commission. Oui, on a l'arrivée donc de Nadège Coucou, comme ça sera enregistré également. Conformément à l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, notre Assemblée établit son règlement intérieur dans les 6 mois de son installation. Donc, ce règlement fixe notamment les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les règles de présentation et d'examen, ainsi que la fréquence des questions orales, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché. Donc, vous avez reçu le règlement intérieur. Vous pouvez voir sur vos tables. Alors, on a fait une petite modification à l'article 7, je crois, de mémoire, où il y a marqué communication, on a mis diffusion. Sinon, le reste respecte ce qui avait été décidé en première commission. Oui, monsieur Piel.
Il semble que la modification n'ait pas été faite dans les documents qu'on a.
Lequel ?
La modification de communication en diffusion.
Oui, c'est normal.
Oui, mais elle est sur le document officiel que j'ai, moi.
D'accord.
Puisque les documents que vous avez, c'est ce qui vous avait été adressé. Donc, ça n'avait pas encore été fait, mais sur le document article 7...
C'est la dernière phrase de l'article.
Voilà, et donc il sera écrit et par voie de conséquence ne peut faire l'objet d'aucune diffusion externe. Voilà.
On n'a pas tout réimprimé en fait.
Okay, voilà. Du coup, j'ai quand même quelque chose à dire. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous notons les modifications apportées à ce nouveau règlement suite à nos remarques. Si l'ensemble du règlement intérieur n'amène pas de commentaires particuliers, nous profitons du changement apporté à l'article 7 traitant du fonctionnement des commissions pour formuler une remarque. En effet, comme l'a précisé le ministre de la Fonction publique en réponse à la question au gouvernement 45720 lors de la 10e législature, nous ne sommes tenus par aucune obligation de discrétion. Notre devoir d'élu est d'informer nos concitoyens et concitoyennes sur les affaires de la commune et nous devons de répondre en toute transparence à celles et ceux qui se posent des questions sur les orientations de développement envisagées pour la commune. C'est pourquoi soyez certains que nous n'hésiterons pas à communiquer sur ce qui est dit dans les commissions si nous estimons nécessaire d'informer sur les projets en cours. Nous n'avons jamais diffusé de documents de commission en dehors de notre groupe municipal et conformément au règlement, nous ne le ferons pas plus à l'avenir. Il est donc inutile de rappeler ce point à chaque commission.
Alors, monsieur Piel, ce point sera rappelé à chaque commission puisque c'est une consigne qui a été établie par moi-même, puisque je rappelle quand même qu'il y a une différence entre un document préparatoire et un document officiel, dans la réponse ministérielle notamment que vous citez. Et les documents préparatoires ne peuvent pas être soumis à diffusion puisque ce sont des documents préparatoires et que dans les commissions, il n'y a que des documents préparatoires puisque les commissions n'ont pas force de loi et de décision. Donc, seuls... peuvent être décidés suivant les arrêtés du maire que vous voyez, les décisions ou la municipalité sur un certain nombre d'éléments qui lui ont été confiés en matière de gestion, mais aucune commission n'a pouvoir de décision, donc tous les documents qui sont donnés dans les commissions sont des documents de travail, qui sont des documents préparatoires et qui ne font pas l'objet d'une diffusion tant qu'ils n'ont pas été validés au final soit par l'Assemblée plénière, soit par la municipalité suivant les pouvoirs qui lui ont été votés en conseil municipal.
Alors on est bien d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit. Les documents ne sont pas diffusables. C'est exactement ce que j'ai dit.
Mais je répète, les documents remis en commission sont des documents préparatoires, ils ne sont pas des documents officiels.
On est d'accord.
Ce ne sont pas des documents diffusables.
Mais on est d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit. Nous n'en avons jamais diffusé, nous n'en diffuserons pas plus. Par contre, nous nous laissons le droit d'en parler sans les diffuser, parce que c'est notre droit.
Mais c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Mais bon, après. Parce que je ne vois pas comment vous pouvez diffuser une information qui n'a pas été discutée jusqu'à son terme. Ça, faut m'expliquer.
On peut toujours parler d'un projet en cours. On n'est pas obligé de donner les documents en rapport avec ce projet. C'est notre devoir de parler de ce qui se dit.
Ah oui, oui.
C'est notre devoir de parler de ce qui se dit. Ça ne veut pas dire que la décision est actée ou que ça engage la mairie ou quoi. C'est... On a le droit et le devoir de parler des affaires qui sont en cours de décision
tout
ou
dépend,
en projet.
Oui, oui, je vous entends bien, mais chacun analysera la manière dont ça sera présenté. Si c'est présenté comme étant une décision, c'est tout à fait différent si c'est présenté comme étant un projet.
Oui.
Et le texte de loi est très clair à ce sujet.
Mais le texte de loi est surtout clair sur les documents.
Et la jurisprudence. Non. Le texte de loi est très clair sur ce sujet, y compris la jurisprudence. Mais bon. Voilà, donc vous avez ma réponse. Après, nous aviserons en fonction, mais je crois que la volonté ici de cette équipe a toujours été de travailler, contrairement à ce que j'ai pu voir, de travailler dans le respect des uns et des autres et d'ouvrir largement la discussion. Je dois dire que, contrairement aussi à ce que j'ai pu voir, ce n'est pas un changement de méthode pour moi, je tiens à vous le dire. Je n'ai jamais pris une décision seule tant qu'une commission n'avait pas discuté des projets. Donc je tiens à ce que ça soit bien clair. Les projets sont discutés en commission et je ne prends jamais de décision. D'abord, ça passe les trois quarts du temps, les 95% des décisions passent devant le conseil municipal. Et les décisions, s'il y en a qui sont prises après concertation avec les adjoints ou discussion dans les commissions. Donc je le rappelle, ça fonctionne comme ça depuis des années et ça continuera à fonctionner de cette manière-là parce que je trouve que c'est la manière démocratique de fonctionner. Et je pense que lorsqu'on est seul à prendre des décisions, on ne prend pas forcément les bonnes décisions parce qu'on n'a pas la science infuse. Et donc, il est intéressant d'avoir l'avis de plusieurs. Donc, je tiens à le rappeler parce que ça a toujours été ma méthode de travail. Même si on tente de me démontrer le contraire, il faudra venir quand même me le démontrer. Et sur certains dossiers où je n'ai pas répondu, j'ai quand même un certain nombre d'éléments pour prouver qu'ils sont passés devant les commissions les années précédentes. Je le rappelle ici pour que chaque personne ne l'oublie. Après, chacun sera libre de communiquer comme il l'entend. Simplement, la communication ne peut pas faire comprendre qu'un projet est défini, acté et va se réaliser s'il est en cours de discussion dans une commission. Je le rappelle. Et je souligne l'arrivée de Mme Compère. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Donc je soumets ce règlement intérieur au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Notre collègue Philippe Gandois, admission en non-valeur.
Considérant le courrier de Monsieur le Trésorier en date du 15 octobre 2020, communiquant les listes de pièces irrécouvrables pour le budget général arrêté au 14 octobre 2020 et pour le budget camping arrêté au 14 octobre 2020 et au 26 octobre 2020. Considérant qu'il sollicite l'admission en non-valeur des listes suivantes. Budget général. Liste numéro 41-68-25-02-33 pour un montant de 19 948,06 €. Budget du camping. Liste 468-10-20-533 pour un montant de 638,64 €. Liste numéro 470-361-02-33 pour un montant de 874,60 €. Donc, il vous est proposé d'admettre en non-valeur les listes des pièces irrécouvrables suivantes au budget général et au budget du camping.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je précise simplement que sur le camping, c'est les annulations des arts qui avaient été versés, puisqu'on est en période de confinement. Et donc, forcément, ceux qui nous avaient réservé des chalets ne pouvaient pas venir par la suite. Et pour le budget général, c'est de l'eau et de l'assainissement qui est pris sur le budget général maintenant que le transfert est fait auprès de la Pôle. Pour les années précédentes, précédant le transfert du budget. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Eliane Crossi, prolongation de la convention avec Aléas.
Considérant que l'association Limousine Emploi Activité Service, c'est-à-dire Aléas,
est... Faudrait que tu approches un tout petit peu le micro, Eliane.
Je recommence. Vous m'entendez là?
Oui.
D'accord. Considérant que l'association Limousine d'emploi, emploi, activité, service, c'est-à-dire Aléas, est en mesure d'effectuer des travaux de bâtiment, d'entretien et d'aménagement des espaces verts et publics dans le cadre d'un chantier d'insertion. Considérant l'intérêt de ce chantier pour une population locale en très grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle, considérant l'avis favorable de la municipalité du 29 juin 2020, considérant la prise en charge de ce chantier par la communauté de communes Porte-Océane du Limousin à hauteur de 50%, le conseil municipal, après délibération, décide de prolonger par convention les missions de travaux de bâtiment, d'entretien et d'aménagement des espaces verts et publics dans le cadre d'un chantier d'insertion sur tous les sites et équipements de la commune de Saint-Junien pour une durée d'un an à raison de 50% du temps de travail des agents. accepte les termes de la convention et notamment la prise en charge de 50% du montant forfaitaire annuel de la participation au dispositif, soit 16 000 euros, accepte de fournir les repas des agents dans le cadre du restaurant scolaire municipal, dit que les repas de la part incombant à la CCPOL, soit 50% du nombre, seront facturés à raison de 6,68 € TTC, tarif 2020 suivant la décision du Conseil municipal en date du 9 décembre 2019 par unité selon une facturation semestrielle. Confie à Aléas l'organisation et le suivi de ce chantier d'insertion et autorise le maire à signer la convention tripartite à intervenir. Dit que les crédits sont prévus au budget concerné de l'exercice en cours.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Esther Azoa-Fenozoa pour la cession d'une parcelle communale.
Cession d'une parcelle communale à la SCI AZ, parcelle AH numéro 133, 10 rue de Douai. La commune est propriétaire d'une maison d'habitation sans terrain cadastré, section AH numéro 133, 6, 10 rue de Douai, Saint-Junien. Il est proposé au conseil municipal de céder cette parcelle à la SCI AZ, représentée par M. Zarhan Abdelkarim, et dont le siège social est situé à Saint-Junien au prix de 9 000 euros. L'avis des domaines en date de 6 février 2020 propose une valeur vénale de 11 500 euros. Considérant que le bien est une maison à très mauvais état, à rénover en totalité, maison dont le palier du deuxième étage est partiellement effondré. Considérant que le constat relatif au risque d'exposition au plomb réalisé le 17 février 2020 par un organisme agréé a mis en évidence la présence des revêtements dégradés ou non contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. Considérant que le constat relatif au risque amiante réalisé le 17 février 2020 par un organisme agréé a mis en évidence la présence des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Considérant que le bien nécessite d'importants travaux de réhabilitation. Considérant l'opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la commune afin de rationaliser la gestion de son parc immobilier dans un contexte financier contraint. Il est proposé au conseil municipal de désigner les études de maître Bayer Dupin et de maître Coulot Julien pour la rédaction des actes notariés dont les frais sur la charge de l'acquéreur. De même, les frais de négociation à l'agence immobilière sont la charge de l'acquéreur.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Dauvergne.
Juste une petite question, savoir, il s'agit ici d'un bien sans maître, c'est ça ?
Non, c'est un bien qui est distribué des doigts, dont était propriétaire la collectivité.
D'accord.
Non, ce n'était pas un bien sans maître. Bien sans maître, on en a. Y en avait un qui était sur Glane. C'est le seul que je connaisse, là, pour l'instant. Enfin, que le service de Périgueux nous avait signalé, mais là c'est un bien propriété de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Claude Balestra pour la cession d'une parcelle communale.
Oui, alors la commune est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain cadastré, section AE, numéro 170, 6, 3 impasse Voltaire à Saint-Junien. Il vous est proposé de céder cette parcelle à Madame Boutineau-Véronique au prix de 66 000 euros. La valeur vénale fixée par l'avis des domaines en date du 20 décembre 2019 est de 65 000 euros. Les frais de négociation de l'agence immobilière sont à la charge de l'acquéreur. Il vous est proposé donc de désigner l'étude de maître Courriveau-Christian et Loriot-Chéron-Caroline pour la rédaction des actes notariés dont les frais sont à la charge de l'acquéreur.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés À l'unanimité, notre collègue Didier Roy concernant un contrat d'apprentissage.
Oui, merci. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, vu le décret. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Non, je ne sais pas, c'est pas le même. Je ne sais pas, j'ai deux feuilles, c'est pas la même chose.
Est-ce qu'on a résumé ? C'est parce que tu as un résumé sur la feuille jaune. D'accord, et sur la feuille blanche, tu as l'intégralité de la délibération.
Je reprends la feuille jaune. Pardon, excusez-moi. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur, d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Considérant que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Considérant qu'il convient de modifier le diplôme préparé du contrat d'apprentissage au service des espaces verts adopté par le conseil municipal en date du 25 juin 2020. Il vous est demandé, après délibération, de décider de modifier le contrat d'apprentissage comme suit. Service espaces verts, un poste. Le diplôme préparé sera en BPA travaux d'aménagement paysager pour une durée de 2 ans.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Tant qu'on parle des espaces verts, je vous signale que vous avez sur vos tables un petit pot de miel, donc du rucher municipal qui a été, je ne sais pas où est Noël, voilà, qui est géré à la fois par les espaces verts et notamment par notre collègue Laure Liboutet et sous l'autorité de Noël qui est devenu un apiculteur. Avec ce rucher. Donc, je vous propose de poursuivre avec notre collègue Alex Gerbeau concernant l'autorisation de signature d'un accord cadre.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, en effet, c'est pour l'autorisation de signature des accords cadres liés aux achats de denrées alimentaires pour le fonctionnement du restaurant scolaire municipal et les réceptions ou manifestations publiques. Donc, considérant le recensement et la classification des besoins annuels par catégorie homogène de fournitures et denrées alimentaires conduisant à un allotissement des achats, considérant l'ensemble des besoins exprimés par la collectivité dont la décomposition en 26 lots figure en annexe, considérant les règles de la commande publique telles que visées dans la délibération, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les accords cadres liés à la procédure formalisée qui seront attribués par la commission d'appel d'offres au terme de la consultation en cours au vu des conclusions et préconisations du rapport d'analyse des offres. Concernant l'exécution des accords cadres, les bons de commande seront notifiés au fur et à mesure des nécessités du service pour la confection des repas et de la planification des réceptions liées aux diverses manifestations municipales.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Aurabelle Pesquet concernant un groupement de commandes pour l'acquisition de logiciels de comptabilité.
Alors, création d'un groupement de commandes lié à l'acquisition de logiciels.
Et Aurabelle, un petit peu plus près du micro parce qu'on ne t'entend pas. Non. Et après, avec l'enregistrement, ça ne fonctionne plus.
Création d'un groupement de commandes lié à l'acquisition de logiciels de gestion comptable, financière et des ressources humaines. Considérant les fonctionnalités des logiciels identifiés par la direction des ressources dans un cahier des charges, qui doivent permettre au service d'assurer d'une part la préparation et l'exécution budgétaire conformément aux dispositions des instructions comptables et d'autre part la gestion des ressources humaines, considérant la mutualisation des agents des services de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, de la commune de Saint-Junien, considérant les liens impératifs entre les services justifiant d'avoir le même éditeur pour les deux logiciels, garantissant ainsi les compatibilités des interfaces. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un groupement de commandes et d'autoriser le maire à signer la convention se rapportant à l'acquisition et à la maintenance de logiciels et de comptabilité, finances et de ressources humaines. Le conseil municipal vous propose, après délibération, d'approuver la création du groupement de commandes et autorise le maire à signer la convention qui détermine les modalités de fonctionnement du groupement ainsi que la répartition des dépenses entre les membres du groupement. Dit que les crédits seront inscrits au budget communal de l'exercice en cours. Article 205, 6156.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Nadège Coucou, concernant la création d'un groupement de commandes, achat et fourniture de matériel électrique.
Merci. Donc, considérant le recensement des besoins annuels en fourniture et matériel électrique, principalement destinés aux travaux en régie réalisés par le service des bâtiments, considérant les besoins identiques recensés par la communauté de communes Port-aux-Seine du Limousin par catégorie homogène de fourniture en référence avec la nomenclature CPV, considérant l'échéance de l'accord cadre en cours d'exécution et les crédits budgétaires affectés aux achats de fournitures pour l'entretien et la réhabilitation des bâtiments, sur le compte 60, considérant l'opportunité de mutualiser les achats afin d'optimiser les coûts de revient en rédigeant un cahier des charges avec des spécificités techniques identiques pour les services de la collectivité et de l'établissement public intercommunal, il vous est proposé d'approuver la création d'un groupement de commandes et d'autoriser le maire à signer la convention et l'accord cadre au terme de la consultation.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Christelle Simoneau, concernant un groupement de commandes, fourniture de pneumatiques et prestations associées.
Considérant le recensement des besoins annuels liés aux achats de pneumatiques et prestations diverses, montage et équilibrage, pour les différents véhicules légers, poids lourds et autres matériels roulants qui constituent le parc de la collectivité, considérant les besoins identiques recensés par les services de la communauté de communes Port-Océane du Limousin, considérant l'échéance de l'accord cadre en cours d'exécution et les crédits budgétaires annuels affectés aux achats de fournitures et prestations diverses sur les comptes 60 et 61, considérant l'opportunité de renouveler le groupement de commandes permettant de bénéficier des économies d'échelle en référence aux dispositions de l'article L2113-6 du Code de la commande publique, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la création du groupement de commande et d'autoriser le maire à signer la convention.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Bernard Beaubreuil, concernant un autre groupement de commande pour le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les marchés d'assurance.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, considérant l'échéance des contrats d'assurance en cours d'exécution scindés en quatre lots qui portent sur les garanties risque automobile, risque de dommages aux biens, risque de responsabilité et protection juridique et fonctionnelle des agents et des élus. Considérant la spécificité des contrats d'assurance qui justifie de confier l'établissement du cahier des charges à un prestataire disposant des garanties et références professionnelles requises pour assurer une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Considérant les besoins identiques exprimés par la communauté de communes Port-Océane du Limousin et le Centre communal d'action sociale de Saint-Junien, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer d'une part la convention qui a pour objet la création du groupement de commandes pour l'attribution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'autre part à signer et à notifier le contrat de prestation de service à intervenir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Bruno Malagneau concernant un groupement de commandes pour la fourniture et transport de matériaux de carrière.
Merci.
Considérant le recensement des besoins annuels en fourniture de matériaux de carrière par la direction des services techniques, principalement destinés aux travaux en régie réalisés par le service de la voirie. Considérant les besoins identiques recensés par les services de la communauté de communes Port-Océane du Limousin par catégorie homogène de fourniture en référence à la nomenclature CPV. Considérant l'échéance de l'accord cadre en cours d'exécution et les crédits budgétaires annuels affectés aux achats de fournitures de voirie, compte 60. Considérant l'opportunité de mutualiser les achats afin d'optimiser les coûts de revient en rédigeant un cahier des charges avec des spécificités techniques identiques pour les services de la collectivité et de l'établissement public intercommunal. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la création du groupement de commandes et d'autoriser le maire à signer la convention, l'accord cadre à intervenir et à délivrer les bons de commande dans les conditions fixées au cahier des charges.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Joël Pichon concernant un groupement de commandes pour la location maintenance de photocopieurs numériques, matériel de consommables informatiques.
Considérant les besoins des différents services et les affectations de photocopieurs numériques dans divers bâtiments communaux, considérant les achats annuels de fournitures, matériel et consommables informatiques qui sont destinés au fonctionnement des différents services, considérant les besoins identiques exprimés par la communauté de communes Port-Océane du Limousin, et ceux du Centre communal d'action sociale de Saint-Junien pour le renouvellement des matériels et consommables informatiques, considérant les échéances du contrat en cours d'exécution liées à la maintenance de photocopieurs dans les différents bâtiments, communaux et intercommunaux d'une part, et de l'accord cadre multi-attributaire qui porte sur l'acquisition et la fourniture de matériels et consommables informatiques d'autre part, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la création des groupements de commandes et d'autoriser le maire à signer les conventions se rapportant d'une part à la location et à la maintenance de photocopieurs numériques et d'autre part aux achats de matériel et consommables informatiques.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Stéphanie Tricard, dérogation au repos dominical dans les établissements de commerce de détail.
Merci. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, laisse aux maires la possibilité d'accorder des dérogations au repos dominical aux commerces de détail qui emploient des salariés. Le nombre de dimanches concernés ne peut excéder 12 par an. Il faut noter que certaines catégories de commerces employant des salariés peuvent ouvrir tous les dimanches sans autorisation préalable en raison de leurs contraintes de production ou parce qu'ils assurent une continuité de la vie économique et sociale. Sont notamment concernés les hôtels, cafés, restaurants, fleuristes, etc. Les possibilités de dérogation à l'initiative du maire sont encadrées par la législation qui prévoit une concertation préalable. L'article R3132-21 du Code du travail impose une consultation des organisations d'employeurs et de salariés et la loi Macron invite le maire à solliciter l'avis du conseil municipal. Chaque salarié concerné, ainsi privé du repos du dimanche, bénéficie de compensations financières et de repos prévues par le Code du travail. L'arrêté municipal rappellera donc ces compensations. Vu les dispositions du Code du travail et notamment son article L3132-26, considérant que le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux commerces d'exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale, considérant qu'il y a lieu de générer une attractivité commerciale forte en lien avec des événements festifs qui rythment la vie locale et celle des administrés, il vous est donc proposé d'émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail, trois dimanches pour l'année 2021, correspondant à de fortes périodes d'activité commerciale, à savoir les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Balestrin ?
Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, au sein du groupe Énergie Citoyenne, comme je pense au sein de cette assemblée, nous sommes tous fermement attachés au repos dominical. Force est de constater qu'actuellement, au regard de la crise sanitaire, nos commerces, et notamment nos petits commerces, sont fortement touchés. Donc on souhaitait simplement savoir si les dates qui nous sont proposées ont été vues avec les commerçants et si jamais ils en souhaitaient plus à titre exceptionnel en 2021 sur des périodes telles que les soldes d'hiver ou d'été, nous n'y serions pas opposés à titre évidemment exceptionnel sur l'année 2021 pour permettre à ces commerces de se reconstituer la marge qu'ils n'ont pas cette année.
Alors, systématiquement, les dates sont vues, non seulement avec la Chambre de commerce et d'industrie et les représentants, puisque je rappelle que nous n'avons pas d'association de commerçants ici, à part l'association Grand Ouest. Néanmoins, les commerçants sont sollicités, donc sont au courant des dates, puisqu'on passe par les organismes consulaires donc, dont ils dépendent. Et les organisations syndicales représentatives des personnels sont également consultées, puisque cela est prévu par la loi, mais les dates qu'on vous donne ici, c'est pour 2021. Pour 2020, a déjà été voté. Et pour l'instant, même ce qui nous a été dit pour 2021, alors après, on verra la période et ce qui se passe, mais ces dates sont suffisantes dans l'immédiat pour permettre éventuellement un fonctionnement du commerce si les commerces sont autorisés à réouvrir, peut-être au 1er décembre, tel que cela nous est éventuellement annoncé, en sachant qu'a priori, tout ne réouvrirait pas au 1er décembre. Donc on verra ce qui réouvrira, ce qui ne réouvrira pas. Je ne peux pas vous en donner, vous donner plus d'éléments pour l'instant parce que je n'en sais pas officiellement plus. Par contre, c'est ce que vous avez en haut du document. Les commerces peuvent ouvrir 12 week-ends par an avec des demandes individuelles. Vous pouvez le voir des fois à certains moments, quand notamment dans les garages, il y a des opérations portes ouvertes ou autres. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des demandes d'autorisation qui arrivent, qu'on transmet à la préfecture, puisque là, après, c'est de l'ordre de décision préfectorale. Voilà. Mais là, pour cette année et pour avoir vu et discuté avec les commerçants, les dates qui étaient proposées pour 2020 dans l'immédiat leur suffisent s'ils peuvent réouvrir. Oui, Monsieur Balestre.
Oui, simplement juste pour poursuivre. Donc cette question n'a pas été formellement abordée avec la réunion qui a eu lieu il y a 2 semaines avec les commerçants qui ont été reçus au niveau de la municipalité.
Ah non, parce que
ça n'a pas été vu.
Mais cette question, elle avait déjà été traitée. Et pour l'instant, la question qui a été réglée lorsque les commerçants ont été vus, c'était de leur permettre de fonctionner, même en période de confinement, avec un logiciel qui leur permette, même quand ils sont fermés, de pouvoir faire du commerce dans des conditions qui ne sont pas idéales, mais qui sont... ce qui peut être proposé aujourd'hui. Après, il est bien évident que de toute façon, on ne peut pour l'instant traiter que l'année 2020. Et donc l'année 2020 permet d'ouvrir les 3 dimanches qui précèdent Noël dans l'immédiat. On verra par la suite. Et puis après, ils ont tout à fait la possibilité, c'est ce que je disais, de faire des demandes de dérogation pour ouvrir plus par la suite. Après, il faudra que l'ensemble des commerces se mettent d'accord, puisqu'ils ne sont pas tous dans les mêmes situations. Et notamment, les commerces de bouche, eux, sont ouverts actuellement, ce qui n'est pas le cas des autres. Je crois que M. Gandois voulait prendre la parole. M. Gandois.
Oui, une petite précision, M. le maire. Il s'agit bien là de commerces qui ont des salariés. Ça veut dire qu'une commerçante qui est seule peut, elle, ouvrir.
Oui, tout à fait.
Merci.
Tout à fait. Madame Tricard.
Effectivement, je voulais préciser la même chose. Et ce, en insistant sur le fait que... Ça ne fonctionne pas ? En insistant sur le fait que, tout simplement, lorsqu'on est propriétaire de son propre établissement, on peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans que personne ne vienne ne poser aucune question dans l'établissement. C'est vraiment centré sur les établissements qui ont des salariés. Et de fait... Malheureusement, en centre-ville, aujourd'hui, il y a finalement assez peu de magasins qui ont vraiment un nombre de salariés suffisant pour commencer à devoir se poser la question si sur une ouverture dominicale supplémentaire, les seuls patrons ne sont pas suffisants, quoi. C'était juste ça que je voulais préciser.
Je vous remercie de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Trois. Des votes contre. Donc, adopté à la majorité. Notre collègue Clément Ladune, exonération de la redevance d'occupation du domaine public.
Oui, alors, face à la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, le président de la République a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements au strict minimum sur l'ensemble du territoire national. L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020, avec la publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020. L'ordonnance numéro 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a prévu différentes dispositions permettant aux collectivités territoriales d'adopter des mesures de soutien aux entreprises et aux commerces dont la poursuite de l'activité a été impactée pendant la période de confinement. Celui-ci a mis à l'arrêt de nombreuses activités et a eu des conséquences financières importantes sur les commerces. Pour certains, leur activité sur le domaine public a dû cesser. Ainsi, afin de soutenir le secteur économique et les commerces Saint-Juniau, il est proposé au conseil municipal d'exonérer les droits de place dus pour les terrasses ou déballages de plein air installés sur le domaine public communal pour une durée de 6 mois allant du mois de mars 2020 au mois d'août 2020.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Thierry Granet, concernant l'autorisation de signature d'un protocole transactionnel.
Oui, merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-21, vu le Code civil et notamment les articles 2044 à 2058, vu le protocole transactionnel annexé à la présente délibération, il vous est indiqué que par courrier en date du 10 mai 2019, Madame Sportiello Chaubert Isabelle a saisi la commune suite à une infestation de pigeons, qui ont endommagé les combles de son immeuble 6-5 Place Auguste Roche à Saint-Junien. Une accumulation de fientes a détérioré l'isolation de son domicile. Selon elle, les dégâts trouvent leur origine dans des travaux réalisés par la mairie dans l'immeuble mitoyen du 3 Place Auguste Roche. La commune a effectivement réalisé des travaux de réfection de toiture sur son immeuble en 2007. Des opérations de vérification se sont déroulées en 2 fois sur l'année 2020 en raison de leur complexité. Des expertises contradictoires ont également été menées en présence des experts des assureurs de chacune des parties. Ces expertises contradictoires n'ont pas permis de déterminer avec certitude l'origine du sinistre. Dans ces conditions, la commune de Saint-Julien considère que les travaux réalisés sur l'immeuble dont elle est propriétaire ont pu être à l'origine, pour une part, difficile à évaluer, et de l'infestation des combles de l'immeuble de Mme Sportiello Chaubert Isabelle. Considérant que la commune de Saint-Julien et Mme Sportiello Chaubert Isabelle ne souhaitent pas se lancer dans une longue procédure contentieuse, et dans la mesure où l'importance du litige est hors de proportion avec les frais qu'entraînerait le recours à une procédure juridictionnelle, la commune de Saint-Julien et Mme Sportiello Chaubert Isabelle souhaitent arriver à une solution amiable et équitable. Considérant que la commune dispose de la possibilité de régler ses litiges par la voie de la transaction sous réserve que la transaction ne conduise pas la collectivité à méconnaître des dispositions d'ordre public et qu'elle n'ait pas pour effet de mettre à la charge d'une personne publique une somme qu'elle ne doit pas, c'est-à-dire que la transaction ne saurait constituer une libéralité. Afin de mettre un terme à leurs différends, Madame Sportiello-Chaubert Isabelle s'engage de manière irrévocable à renoncer à toute instance ou action à l'encontre de la commune par tout moyen et voie de droit ordinaire ou extraordinaire, trouvant sa cause dans les faits objets du présent protocole transactionnel. La commune de Saint-Junien s'engage à verser à Madame Sportiello-Chaubert Isabelle la somme totale de 2 189 €, soit la moitié du devis établi par PMC Bâtiment correspondant au nettoyage des dégâts causés par l'entrée des pigeons dans le grenier, à la dépose et au changement à neuf de la laine de verre, à l'évacuation des déchets et la mise en place d'un échafaudage en sécurité. Considérant dès lors que le recours à la transaction est la solution pour mettre un terme dans les conditions acceptables pour la commune aux différends qui l'opposent à Mme Sportiello-Chaubert-Isabelle. Considérant les motifs pour lesquels la commune a intérêt à recourir à un protocole transactionnel et pour éviter une procédure longue, éventuellement coûteuse et à l'issue incertaine. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'autoriser M. le maire à signer le protocole transactionnel tel qu'annexé à cette présente délibération.
Je remercie le rapporteur de cette histoire pigeon. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, je vous en remercie. Notre collègue Mireille Chabot concernant l'exonération du paiement de 2 mois de loyer.
Vu le décret numéro 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, vu le bail commercial signé par M. Burke en date du 24 novembre 2015 pour le local situé 12 place Guimauquet, vu le bail commercial signé initialement le 23 janvier 2001 avec M. Burke, renouvelé par acte du 9 septembre 2010 pour une période de 9 ans à compter du 1er juillet 2009 et prolongé pour la même période par délibération numéro 2018-122 pour le local situé 14 place Guimauquet. Considérant que la situation économique des commerçants s'est fortement dégradée du fait des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, afin de soutenir l'activité commerciale, il est proposé d'exonérer M. Burke du paiement de 2 mois de loyer correspondant à la période d'inactivité due au confinement pour les 2 locaux commerciaux qu'il occupe.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté. À l'unanimité, notre collègue Noël Laurencier concernant la signature d'une convention de projet urbain partenarial.
Suite au projet de Mme Fourgeot-Aurélie de créer 2 lots à bâtir sur sa parcelle cadastrée section DE numéro 112, 6 Antardieu, et située en zone UN du plan local d'urbanisme, un dépôt de certificat d'urbanisme pour ce projet a montré qu'il ne bénéficiait pas des équipements publics nécessaires à sa réalisation, eau et électricité. Des chiffrages pour les extensions permettant d'assurer la desserte des 2 parcelles ont été réalisés pour les montants suivants. Électricité, 6 689,40 €. Eau, 5 390,57 €. Une décision de non-opposition à une déclaration préalable pour autoriser la division de 2 lots à bâtir sur cette parcelle a par ailleurs été délivrée à Mme Fourgeot le 19-3-2020. Il est proposé au Conseil municipal une convention PUP qui portera sur l'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité afin de desservir les 10 terrains. Monsieur le maire précise que la totalité des sommes nécessaires de ces travaux, soit 12 079,97 €, seront mises à la charge de Mme Fourgeot-Aurélie, les travaux prévus ne bénéficiant qu'à ses futurs lots.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur d'Auvergne.
C'est une opération d'urbanisme assez complexe, donc c'est bien pour ça que je viens vers vous, pour me donner un peu plus des éléments de compréhension sur cette opération. Et je voulais aussi savoir si cette opération là, avait fait l'objet d'une discussion dans la commission urbanisme, je suppose, et surtout comment vous êtes parvenu à l'exonération de 2 ans de la taxe d'aménagement.
Alors ça, c'est prévu par les textes, si vous voulez. Un projet urbain, c'est-à-dire quand quelqu'un a plusieurs parcelles et a nécessité, s'il veut construire, et s'il a nécessité d'avoir une extension du réseau d'eau et du réseau d'électricité, soit la collectivité, il faut qu'il y ait plusieurs parcelles. Hein. Donc si vous avez, mettons qu'il y ait 10 parcelles, on va prendre cet exemple-là, La personne amène l'eau et l'électricité au droit de sa parcelle, mais pour avoir son permis, il faut que la totalité du ce qui sera un lotissement soit desservie. Donc, soit elle prend la totalité, enfin, on décide, et donc là, c'est une décision municipalité, parce que c'est juste une décision financière, c'est pas une décision d'urbanisme, là. Soit on décide que la personne, dans ce cas-là, règle la totalité, assume les frais, donc la loi prévoit cette exonération-là, ça c'est prévu par les textes de loi. Soit la collectivité dit, eh bien nous, on va prendre à charge les frais relatifs aux autres lots pour qu'ils soient desservis, et on se fera rembourser au fur et à mesure de la vente de ces lots. C'est-à-dire que la collectivité fait l'avance, en gros, de la partie financière. Mais on ne sait pas pour quelle durée, parce qu'on ne sait pas à quel rythme vont se vendre les lots. C'est pour ça qu'on ne va pas, en principe, sur ce système-là, et qu'on laisse plutôt à charge du pétitionnaire le financement de l'extension des réseaux eau et électricité. Et en contrepartie, il bénéficie de 2 ans d'exonération, mais qui sont prévus par les textes. Ça, c'est la loi de la contrepartie du plan du projet urbain partenarial. Et quand vous réfléchissez bien, l'exonération de 2 ans est largement compensée par l'argent qu'on aurait avancé, nous, parce qu'après, cette personne va payer ses taxes normalement, si vous voulez. Et on n'avance pas d'argent pour les autres lots, parce que si les autres lots ne sont pas vendus, là, il y a, par exemple, il y a un autre lot, si dans 10 ans, il n'est pas vendu, eh bien, on ne rentrera pas dans nos fonds pendant 10 ans. C'est pour cette raison qu'on n'avance pas, on a fait ce choix-là de ne pas avancer financièrement, parce que ça peut poser des soucis financiers à la collectivité si on se retrouve avec un certain nombre de propriétaires qui décident d'aller sur ce système-là. C'est un système qui a changé parce qu'il était prévu, c'était la loi Guesso qui l'avait mis en place au tout début, sur une autre formule, puisqu'on intégrait également l'assainissement, enfin on intégrait tout au départ, et après c'est sur l'électricité et l'eau maintenant, et ça s'appelle projet urbain partenarial, mais il n'y a pas de grosses modifications. Voilà, donc c'est bien prévu par les... Le texte de loi, c'est la contrepartie, c'est l'exonération de 2 ans. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est un peu complexe, mais... Voilà, en gros, on ne fait pas d'avance d'argent. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Enfin, non, c'est que tu ne prends pas part au vote.
Mais ça considère comme une abstention.
Oui, d'accord. Donc... alors, non, mais j'explique. Madame Pichon ne prend pas part au vote parce qu'elle connaît la personne qui... voilà. Voilà, c'est la mère de son petit-fils. Donc, elle ne prend pas part au vote. Donc, en dehors de... Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité des votants. Nous poursuivons notre collègue Julia Seba, paiement du solde de la subvention accordée à la SCJ Omnisport.
Conformément à la décision du Conseil municipal lors du vote du budget primitif de la commune le 25 juin 2020, considérant la notification de la trésorerie de Saint-Junien informant de la suppression de paiement du solde de la subvention de la SCJ Omnisport au motif d'insuffisance de pièces justificatives, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur le paiement du solde de la subvention accordé à l'ASCJ Omnisport d'un montant de 8 500 €.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, Monsieur Gerbeau d'abord et Monsieur Piel après.
Oui, juste pour vous informer que nous allons être plusieurs à ne pas prendre part au vote, étant dans des conseils d'administration de l'ASCJ.
Monsieur Piel.
Alors, moi, c'était juste pour demander une précision, savoir quelles étaient les pièces manquantes pour justifier ça. Enfin, pour justifier le non-paiement à l'origine.
On ne parle pas forcément de la même chose.
La suppression du paiement, voilà, pour être exact, comme c'est indiqué.
C'est parce qu'il manque... Alors, il y a une convention qui a été signée en 2011... qu'on recherche. La trésorerie a toujours payé jusque-là et nous dit maintenant qu'elle n'a pas cette convention. Donc, on est en train de rechercher cette convention que, pour l'instant, pour tout vous dire, nous n'avons pas trouvée. La SCJ Omnisport non plus, mais bon, on va la trouver, ou sinon on rédigera une nouvelle convention, en sachant que depuis 2011, cette subvention a toujours été versée. Donc, On a un peu de mal à comprendre que si elle était versée avant, elle ne le serait pas aujourd'hui. Voilà, bon, c'est juste cet élément-là. Mais en sachant que la première partie de la subvention a été versée aussi cette année. Donc il y a comme ça des incompréhensions qui se passent. Bien, donc, je vais soumettre au vote. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, ceux qui ne prennent pas part au vote. Alors, deux, voilà. Donc, en dehors de ces personnes-là, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité des votants. Nous poursuivons notre collègue Christophe Vacher, subvention FNACA. Fédération nationale des anciens combattants.
La Fédération nationale des anciens combattants, comité de Saint-Junien, 3 places Auguste Roche, sollicite une demande de subvention annuelle de 1 000 euros. Leur demande a été transmise le 22 juin, après la date limite de dépôt de dossier, et n'avait pas été votée lors du budget primitif le 25 juin 2020. Il est donc demandé au conseil municipal de leur attribuer cette subvention annuelle de 1 000 euros.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Laure Murat, subvention exceptionnelle Guy Cover.
Merci. Monsieur Rago Thomas, président de l'association Geek Over, 36 avenue Yuri Gagarine à Saint-Junien, a pour objet de promouvoir l'e-sport au niveau culturel, pédagogique et compétitif. Il souhaite organiser un tournoi de jeux vidéo au profit du Téléthon, le Téléthon Gaming, le 5 décembre 2020, et permettre d'ouvrir la connaissance du monde de l'e-sport. Le projet de Monsieur Rago a déjà fait objet d'une étude en municipalité le 26 août 2019. La municipalité avait alors donné un accord de principe sous réserve d'études par nos services des contraintes techniques. Il est demandé au conseil municipal de lui accorder 500 euros à titre de subvention exceptionnelle pour l'année 2020.
Je remercie le rapporteur. On rajoutera la délibération sous réserve de la réalisation de la manifestation, puisqu'on n'est pas sûr que cette manifestation, compte tenu de la situation actuelle, puisse se réaliser. Mais bon, on essaye de prendre un petit peu d'avance. Oui, Madame Pichon.
Alors, la manifestation pour le 5 décembre a été annulée, mais l'AFM Téléthon autorise exceptionnellement la tenue de manifestations pour récolter des fonds pour le Téléthon jusqu'au 31 janvier 2021. Et on espère pouvoir l'organiser en janvier, avec beaucoup de réserves aussi.
Bien, donc ce que je vous propose, c'est de maintenir cette délibération et on verra si on a lieu de la reporter sur 2021, dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Notre collègue Béatrice Compère, subvention exceptionnelle, les belettes en 4L.
Merci. Messieurs Romain Plazané et Willy Martin, membres de l'association Les Belettes en 4L, 49 avenue Rosa Luxembourg à Saint-Junien, participent au 4L Trophy du 18 au 28 février 2021. Cet événement est un rassemblement sportif européen, étudiant à but humanitaire. Ce raid permet tout au long du périple marocain de distribuer des fournitures scolaires et des équipements sportifs aux enfants du pays, en partenariat avec les associations Les Enfants du Désert et la Croix-Rouge. L'association sollicite une subvention exceptionnelle permettant l'affichage du logo de la mairie sur le véhicule. Elle demande également la participation de la mairie, prêt de salle, demande d'emplacement, place du marché, pour une vente d'objets et récolte de fournitures scolaires les samedis matins au champ de foire et sur l'organisation d'un repas pour le rassemblement des sponsors. Une subvention de 300 euros avait été allouée par la municipalité en novembre 2014 à la SSJ 4L pour une demande similaire. Il vous est demandé d'accorder une subvention exceptionnelle identique à celle attribuée en 2014, à savoir 300 euros pour l'année 2020.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Notre collègue Laurent Chazelas concernant le tableau des emplois.
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre la modification d'un poste par rapport au budget. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 17 septembre 2020, considérant les besoins du service entretien et plus particulièrement du pôle des agents de remplacement, il est nécessaire d'augmenter le temps de travail de 3 adjoints techniques à temps non complet et de les passer à temps complet. Il vous est donc proposé de créer 3 postes d'adjoints techniques à temps complet, de supprimer 3 postes d'adjoints techniques à temps non complet 28-35e et de modifier le tableau des emplois ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 2020.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Bernadette Desroches concernant la vente de ferraille.
Considérant qu'à l'occasion de travaux de nettoiement et de rangement des bâtiments communaux, il a été procédé à la récupération de ferraille qui n'a plus d'utilité. Considérant qu'il est opportun de vendre cette ferraille à une entreprise spécialisée, il est proposé au conseil municipal de la vendre à l'entreprise Eno au tarif suivant. Ferraille mêlée cours du 3 septembre 2019, 90 euros la tonne. Fonte cours du 25 septembre 2019, 140 euros la tonne.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre adoptés à l'unanimité pour la vente de ferraille ? Notre collègue Eliane Crossi concernant une proposition de motion pour la demande de réouverture de la ligne Limoges-Angoulême.
Merci, monsieur le maire. Considérant l'enjeu fondamental que revêt cette voie historique pour la pleine intégration de toute la Charente et du Limousin à la façade atlantique et à la région Nouvelle-Aquitaine, considérant que cette ligne est un axe d'aménagement et de vie pour tous les territoires que traverse cette ligne, véritable outil contre l'isolement des populations et pour l'attractivité des territoires. Considérant que cette ligne permet d'organiser les liens domicile-travail au quotidien avec les agglomérations de Limoges et Angoulême et qu'elle représente d'ores et déjà à ce titre un facteur d'attractivité territoriale pour des personnes travaillant dans ces agglomérations et recherchant un mode de vie durable. Considérant que cette ligne s'ouvre sur la seule voie rapide qui mène autant à notre capitale nationale qu'à notre capitale régionale, que nos territoires ont contribué au financement de l'axe Tours-Bordeaux et qu'elle permet une connexion au réseau international, considérant qu'un projet fort de réhabilitation de cette ligne permettrait d'aller encore plus loin sur cette stratégie de développement qui mise sur les liens domicile-travail, considérant qu'un aménagement du territoire efficace et structurant met en synergie les dessertes par train et route. Dans ce cadre, on ne peut avoir d'un côté le doublement complet de la RN 141 et de l'autre une ligne historique à l'abandon. Considérant les enjeux environnementaux prioritaires qui font du train un moyen incontournable et nécessaire pour offrir une alternative aux véhicules individuels, considérant l'enjeu que cette ligne a pour nos jeunes en formation scolaire et professionnelle, considérant l'enjeu touristique que représente cette ligne, considérant le potentiel que représente le fret sur cette ligne en bénéficiant des industries majeures et structurantes de nos territoires, tout en étant un gage de sécurité sur les axes routiers. Les élus de la liste majoritaire demandent la réouverture rapide du tronçon Saillant-Angoulême, fermé à la circulation depuis 2018, la mise en place d'horaires adaptés aux besoins des usagers, l'engagement de l'État au financement de cette réouverture.
Alors, il y a une toute petite, je remercie le rapporteur, il y a une toute petite modification, c'est le conseil municipal à la fin demande. Voilà, ça n'avait pas été rectifié en son temps, mais le conseil municipal, voilà, puis dans le texte, il n'y a rien d'autre de changé. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Balestra ?
Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Notre groupe se retrouve pleinement dans ce vœu et dans ce combat unitaire. Nous étions nombreux le 6 octobre dernier devant la gare de Saint-Junien. Le train, c'est à la fois un mode de transport en commun écologique et, rappelons-le, extrêmement sûr. Pour que cette ligne ait un avenir, on souhaiterait simplement, à l'oral, sans modifier le texte, mais rappeler 3 points qui nous semblent importants. Le premier, ce sont effectivement les infrastructures. Il faut absolument qu'il y ait un investissement massif de la SNCF, de l'État, de la région, parce que à partir du moment où il y a un manque d'investissement, il y a des retards qui se créent, donc une désaffection des usagers. Le coût des billets. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent s'emparer de cette question et faire en sorte qu'il y ait une véritable attractivité du train quand on bénéficie d'aucune réduction. Actuellement, pour faire Saint-Junien-Limoges en train, c'est 8,20 €, alors même que c'est 2 € en bus. Donc il y a véritablement un problème sur lequel les pouvoirs publics doivent se pencher. Les horaires, c'est dit dans le vœu, il faut que ça corresponde à nos besoins. Typiquement, si vous voulez aller à partir de Saint-Junien en transport en commun à Limoges le dimanche matin, vous n'avez rien et vous ne pouvez arriver qu'à 11h45. Et puis, le dernier point un petit peu plus culturel, c'est qu'il faut collectivement et individuellement qu'on réapprenne peut-être à avoir des horaires contraints sur nos déplacements, qu'on réapprenne à utiliser le train, parce que, comme on l'a dit dans notre tribune, notre meilleure arme, c'est la hausse de la fréquentation. Je vous remercie.
Oui, juste un mot là-dessus. Alors, je crois que les pouvoirs publics, enfin, quand j'ai dit les pouvoirs publics, les élus, les associations de défense également du train sont au travail depuis de longues années sur ce territoire pour essayer de faire avancer, si je puis dire, la rénovation de cette ligne. On se heurte simplement à une volonté de l'État de ne pas nous entendre. C'est très clair. La région a proposé un certain nombre de choses, mais on ne peut pas non plus, et je ne suis pas là pour défendre les uns ou les autres, mais jusqu'à preuve du contraire, la SNCF, depuis des années, n'a pas fait de travaux sur cette ligne. Avait même prévu, d'ailleurs, le matériel pour faire les travaux qui était stocké en gare de Saya, qui, bizarrement, après le manifeste de Saya, qui a été signé il y a 3 ans ou 4 ans, je crois, je ne sais plus, les a déplacés en camion, parce que la voie ne supportait pas le poids pour les déplacer, ce qui est assez cocasse quand même, les a amenés à Aix, et depuis, je ne sais pas où ils sont passés, parce qu'ils étaient stockés dans la gare d'Aix, et depuis, ils ont dû se déplacer encore une fois. Je crois qu'il y a un travail énorme. Si vous avez vu tout récemment, le président Rousset a demandé au ministre des Transports de se positionner officiellement et financièrement sur ce projet-là. Il y a un comité de ligne qui doit se tenir prochainement où Eliane Crossi, qui est en charge de ce dossier, normalement, c'était ce soir. Vas-y, enfin, on va en reparler après. Mais suit ce dossier. Et puis, je crois que ce qu'il faut se dire aussi, Johan, que tu n'as pas cité, c'est que il y a Saint-Junien-Limoges, ou Limoges-Saint-Junien, on le fait dans le sens qu'on veut, mais il y a aussi l'accès jusqu'à Angoulême. Or, à Angoulême, on a un nœud ferroviaire qui nous permet d'aller dans un certain nombre de secteurs, soit Bordeaux, soit Paris, soit, enfin bon, suivant le secteur où on veut aller. Moi, ce qui m'inquiète effectivement, c'est qu'il y a certes aller jusqu'à Angoulême et au nœud ferroviaire, mais il y a toutes les communes de Charente qui ne sont plus desservies et tous les établissements scolaires de Charente qui ne sont plus desservis aussi et qui jusqu'à présent fonctionnaient aussi grâce au train parce qu'ils accueillaient suivant leurs spécificités des élèves qui venaient un petit peu partout du territoire. Donc il y a tout cet état de fait et puis il y a aussi, et on le voit bien, une volonté manifeste de Réseau Ferré de ne pas développer cette ligne. Et quand on veut ne pas développer une ligne, eh bien on choisit des horaires de train qui ne correspondent pas aux horaires d'embauche des personnes, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et après on se forme d'une étude qui démontre qu'il n'y a plus personne dans le train. C'est facile, puisque les trains ne peuvent pas amener les gens au boulot, puisque les horaires ne correspondent pas aux horaires de travail. Donc c'est un énorme chantier, effectivement, alors sur lequel on travaille depuis des années, puisque pour les anciens qui connaissent, Daniel Noye était encore maire d'Aix quand on a commencé à essayer de défendre cette ligne en disant il faut qu'on la défende, mais il ne faut pas s'arrêter à la ligne SNCF. Il faut aussi qu'il y ait les correspondances bus et tout sur Limoges, pour ceux qui vont à Limoges travailler, parce que quand vous arrivez à Montjovier ou au Bénédictin, vous n'êtes pas dans les zones industrielles de Limoges, donc il faut aussi se déplacer et avoir le corollaire sur les autres collectivités. Et puis, effectivement, petit à petit, on voit que la SNCF a déplacé les horaires, a fermé. Alors, elle n'a pas fermé, soi-disant, puisque c'est pour faire des travaux, mais si vous suivez la ligne, vous verrez qu'il y a certains rails qui ont été enlevés à certains endroits, notamment quand vous arrivez dans le secteur de la Rochefoucauld, et que c'est très compliqué de faire remettre des rails à la SNCF à un moment donné. Donc je crois que c'est effectivement une volonté politique sur laquelle qu'il va falloir dépasser aujourd'hui pour faire en sorte que le train revienne à l'ordre du jour. Et je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose qui est fiable en termes de sécurité, qui en termes de développement durable transporte plus de monde qu'un bus, enfin plus de personnes à la fois qu'un bus. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de relier les territoires les uns avec les autres, et ça c'est particulièrement important. Et ça permet de relier aussi de grandes destinations. Je rappelle qu'à un moment donné, c'était la région Limousin à l'époque qui permettait de partir en vacances avec un billet à coût très bas pour aller sur certaines destinations où on ne peut plus aller aujourd'hui si on ne prend pas la voiture. Donc c'est un tout, et les associations d'usagers se défendent et essayent de se défendre avec les élus que nous sommes pour faire en sorte qu'on essaye de rétablir cette ligne. Je dois rencontrer prochainement le président du Grand Angoulême sur ce dossier-là. Le président de l'Aglo de Limoges est partie prenante également pour la défense de cette ligne. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec tous les élus, eh bien, on arrive à démontrer au gouvernement qu'il y a une nécessité sur cette ligne, une nécessité non seulement en termes de transport, mais une nécessité également en termes de fidélisation des usagers sur cette ligne pour éviter qu'on ait autant de véhicules sur nos routes aujourd'hui et qu'on arrive à relier aussi, parce que le train, c'est aussi une vie interne à l'intérieur de nos collectivités. Eliane, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Madame Grossi.
Oui, merci. Oui, je voulais simplement dire, il y a donc le comité de ligne le jeudi 19.
Ah oui, voilà, c'était ça que j'avais perdu.
Là, je n'ai pas encore pris ma décision parce qu'en même temps, j'ai le conseil communautaire.
Oui.
Donc, je vais faire un choix. Je pense que j'irai au comité de ligne parce que ça me paraît important, parce que ça permet, le comité de ligne, de poser des questions directement aux responsables de la région Nouvelle-Aquitaine concernant toutes ces lignes. Ce que je voulais juste une information à vous donner ce soir, c'est que la motion que nous présentons ce soir, elle sera aussi présentée dans les conseils municipaux et les communautés de communes côté Charente dans les jours qui viennent.
Monsieur Granet.
Oui, merci monsieur le maire. Moi, tout simplement pour compléter, je n'ai rien rajouter au débat, je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Et vous parliez, monsieur le maire, de volonté politique pour le rétablissement de la rouverture de cette ligne. Il faut préciser tout de même que la volonté politique, elle existe dès lors qu'il s'agit d'une volonté politique locale. Je rappelle quand même l'engagement du président Rousset sur cette question, puisque le président Rousset a même été jusqu'à revendiquer la pleine et entière gestion des lignes régionales pour peu que l'État et la SNCF mettraient sur la table les moyens pour que la région puisse s'en occuper. Donc voilà, les élus locaux, et ça a été dit par vous, monsieur le maire, par notre collègue Crossi, les élus locaux, les riverains de la ligne sont tous très mobilisés. Il faut souligner que sur ce dossier qui dure depuis des années, et l'historique a été très bien rappelé par monsieur le maire, la SNCF et l'État ont clairement la volonté de supprimer ces lignes. Donc il ne faut pas se tromper d'adversaire en la matière. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais compléter, monsieur le maire.
Madame Tarnot.
Je voulais simplement rajouter aussi que il me semble que la gare de Saint-Brice et la gare de Saint-Victurnien sont fermées. Enfin, la gare de Saint-Victurnien est à vendre. Et je pense que c'est... Enfin, voilà, ça fait peur. Et je pense que c'est aussi des choses à demander, que les gares soient maintenues. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire rouler un train si on ne peut pas s'arrêter... Enfin, si on ne peut pas prendre le train à Saint-Victurnien, Saint-Brice, à chaque gare, ça a aussi un sens de pouvoir prendre le train dans les petites gares. Voilà.
Alors, juste pour vous répondre, effectivement, alors c'est si je puis dire, le côté ubuesque de la situation, c'est-à-dire que les gares, en tant que bâtiments, ne sont pas gérées par la SNCF, mais sont gérées par une autre structure C'est de cette façon-là que vous pouvez avoir une gare qui soit refaite entièrement et que le train ne passe plus. Voilà. On arrive à ce type d'absurdité. Alors, sur Saint-Viturnien, c'est vrai qu'il y a eu des approches, mais la SNCF, pour l'instant, a fait marche arrière. Enfin, la SNCF, là, je crois que c'est la Société Nationale Immobilière, hein, mais retenez pas le nom parce que je ne suis pas trop sûr, là, a fait marche arrière actuellement. Par contre, ce que l'on sait, c'est que sur Saint-Brice, ils voulaient faire des travaux, alors comprennent qui pourra. Sur Saint-Génien, ils ont fait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux. Mais je crois que les travaux, c'est une chose, c'est bien d'avoir des gares, mais il faut surtout qu'on arrive à avoir nos trams. C'est surtout ça qui me paraît primordial, parce que on pourra faire réouvrir des gares, ça c'est peut-être moins problématique, mais il faut d'abord qu'on arrive à faire passer les trams, et ça c'est beaucoup plus complexe, et ce qui a été dit est tout à fait exact. Il faut qu'on arrive à remettre... Alors, la SNCF tente de gagner du temps actuellement, puisque si vous avez vu, et je pense qu'au comité de ligne, c'est ce qui va encore être dit, la SNCF redemande des études sur des études, parce que à chaque étude, le nombre de millions d'euros pour refaire la ligne est différent. Un coup, ça monte, un coup, ça descend, enfin, c'est jamais... Et là, si on repart sur des études, il faut savoir que c'est plusieurs années d'études encore. Et donc, si on fait plusieurs années d'études, ça veut dire que on devrait peut-être, si tout fonctionne bien, voir passer un train dans 20 ans. Donc, il faut que, effectivement, la force politique au niveau national, et j'ose espérer que le ministre des Transports, qui doit bien connaître ce territoire, et qui, en tous les cas, connaît bien la gare de Saint-Génien, puisqu'il y a été à un moment donné avec moi, donc je suis sûr qu'il la connaît, il connaît bien cette ligne aussi. Je ne doute pas que s'il veut s'emparer de ce dossier, on devrait pouvoir avancer, puisque tous les maires de Limoges à Angoulême sont tous sur la même longueur d'onde. On pourrait dire qu'on est tous sur la même voie, c'est le cas de le dire. Et que tout le monde est d'accord pour dire que cette ligne doit être réouverte. Donc il ne nous manque plus aujourd'hui que la volonté politique nationale pour aller réouvrir cette ligne, et à se caler sur le montant des travaux, où la région a déjà dit qu'elle était prête à aller sur le financement de la ligne, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs de son ressort, il ne faut pas l'oublier, mais c'est comme les routes nationales, où maintenant les départements et les régions aident à financer les routes nationales. Donc il y a une vraie volonté politique, il nous faut simplement une volonté nationale. Donc j'en reviens... Pardon, Monsieur Beaubreuil.
Merci, Monsieur le maire. Vous avez sans doute remarqué, ou alors il faut faire changer vos lunettes, qu'il y a des centaines de camions de bois qui sont sur nos routes, qui les détruisent. Auparavant, c'était sur les voies ferrées. Donc effectivement, là, il y a eu aussi une politique catastrophique, parce qu'effectivement, les camionneurs ne payent pas sur les routes. Donc effectivement, il y a des choses à revoir aussi.
Bien, je vous propose de passer donc au vote de cette motion. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Alex Gerbeau pour les remerciements.
Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, quatre remerciements par nos associations ce soir. Donc, la première concernant la SSJ Athlétisme remercie la municipalité pour l'aide apportée pour l'organisation de la 20e édition des 10 km de Saint-Junien. Ensuite, l'association L'Écho des Nagas remercie la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes. L'association Champ Libre remercie la municipalité pour l'aide apportée pour l'organisation de la 5e édition du festival Champ Libre. Et les Amis des Fleurs remercient la municipalité pour l'aide apportée pour l'organisation de la 4e édition de la fête des plantes.
Je remercie le rapporteur. Alors, vous avez dans vos dossiers l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis la dernière réunion du conseil municipal. Je sais, pour m'être entretenu avec Johan Balestra, qu'il y a une question sur la fibre optique, mais qu'on ne traitera pas ici parce qu'elle est très technique. Et donc, il y aura, on fera une petite réunion avec notre informaticien, Alain Berthaud, et les personnes qui souhaitent venir à cette réunion, sur la zone AMEL, la zone AMI et dorsale. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, c'est pendant l'ordre du jour, Monsieur Granet, ou... Oui, allez-y, je vous en prie.
Merci, Monsieur le maire. Non, c'est juste une petite réflexion très courte. Je voudrais faire part au conseil municipal de réactions que j'ai entendues en ville cette semaine suite aux différentes réunions qui ont été initiées par la municipalité à l'égard des commerçants. Et on note qu'il y a un mouvement qui est en train de s'enclencher de la part de nos commerçants et chacun, à part peut-être un ou deux esprits chagrins, ça doit sans doute exister, mais la totalité des commerçants se félicitent absolument de l'initiative prise par la municipalité concernant l'aide apportée à nos commerçants et singulièrement à nos commerçants de centre-ville pour tenter de passer le moins mal possible cette crise Covid. Donc voilà, je souhaitais vous en faire part parce que j'ai vu des traitements de l'information diverses et variées, voir certains organes de presse qui ne citent absolument pas l'initiative de la municipalité. Donc voilà, je souhaitais quand même vous dire que les commerçants, eux, ne sont pas dupes et voient bien d'où viennent les efforts. Et à titre personnel, je m'en félicite.
Bien, moi, je n'avais pas d'autres questions, donc je vous propose de lever la séance. Je vous remercie. Bonne soirée.